17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, aujourd'hui Christophe Madrol, merci d'être là Christophe.
Merci.
Un méditerranéen de cœur, de conviction, de sang, de sol. Alors vous êtes comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, vous, vous faites de la Méditerranée sans le savoir. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit, à la manière d'Astérix, tombé dans la potion magique. La Méditerranée, c'est votre alpha, votre oméga ?
Oui, c'est ma passion, c'est les peuples qui composent la Méditerranée, c'est l'écologie, la biodiversité, c'est la cuisine, c'est la musique, c'est l'huile d'olive qui arrose beaucoup de mes plats, même si ma femme me fait un peu la tête parfois, et etc. Et c'est cette relation que j'ai avec tous les peuples qui composent cette Méditerranée que j'aime.
Christophe Madrol, un amoureux de la vie, un amoureux des gens, vous êtes conseiller régional de la région Sud. Alors c'est la région Sud, c'est cette grande région du sud de la Méditerranée. Bon, en ce moment, ça rue un peu dans les brancards parce que ces régions, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, non, il faut être alsacien, il faut être la Provence. On a l'impression que ce mot de région cache un peu les identités locales.
Mais comme le dit très bien mon président de région, mon ami Renaud Muselier, on a des marques extraordinaires dans cette région sud. On a les Alpes, on a Nice, on a Toulon, on a la Camargue, on a les Alpilles, on a Aix-en-Provence, et puis on a la capitale de la Méditerranée, ma ville de Marseille.
Vous l'appelez même le capitaine.
Oui, c'est vrai que dans une interview que j'ai donnée lors du forum des deux rives à Marseille, je n'ai pas parlé de Marseille capitale, j'ai parlé de Marseille capitaine. Capitaine de ce que je souhaite par rapport à la Méditerranée et que l'Europe, enfin, regarde un peu plus vers le sud et un peu moins vers le nord, malgré ce qui se passe actuellement.
Vous êtes donc conseiller régional de la région sud, vous êtes président de l'Union centriste écologiste, UCE, et vous êtes conseiller auprès de la ministre Annie Girardin, la ministre de la mer, et vous la conseillez bien sûr sur quoi ? Sur la Méditerranée, sur ce que vous savez le mieux faire. Alors Christophe Madrol, cette Méditerranée, avant de rentrer, d'arriver un peu à l'écologie et à votre engagement politique en tant que Marseillais, en tant que citoyen tout court, est-ce que vous prévoyez ce que vous voulez pour le pays, pour les futures années, auprès de qui vous allez vous engager. Peut-être cette Méditerranée, retour sur un instant, cette Méditerranée qui était au centre du Forum des mondes méditerranéens qu'il a eu il n'y a pas très longtemps, sous la houlette de Karim Amlad, l'ambassadeur et le délégué interministériel à la Méditerranée. Cette Méditerranée qui pleure, cette Méditerranée qui chante, cette Méditerranée qui est l'objet de toutes les convoitises et qui en même temps fait rêver. Cette Méditerranée, on a l'impression qu'on ne la laisse pas tranquille et qui en même temps, elle recèle mille et un trésors qu'on n'arrive pas à valoriser et que Marseille, en fait, pourrait porter à bout de bras si elle était un peu plus soutenue.
Oui, vous avez raison. Cette Méditerranée, c'est une région qui rencontre toutes les difficultés qu'on rencontre dans le monde entier. Il y a des problèmes de protection de l'environnement à cause du réchauffement climatique. Il y a des problèmes.
On peut rappeler que les 20 villes les plus chaudes de la planète sont en Méditerranée.
Sont en Méditerranée. Il y a des problèmes sociaux qu'on voit avec la question des migrants. Il y a la question du tourisme durable. Il y a les questions de l'économie bleue. Il y a avec la fameuse route de la soie que nos auditeurs connaissent bien avec le doublement du canal de Suez. Il y a les questions de conflits malheureux qui opposent souvent nos peuples autour de la Méditerranée. Il y a le rapport aussi avec la vie, parce que la vie méditerranéenne, c'est quelque chose de culturel qui est très important. Et dans ces moments de crispation où on a tendance à stigmatiser l'étranger, où on stigmatise celui qui vient d'ailleurs, je crois que cette Méditerranée rassemble tous ces peuples, qu'on soit musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes. On retrouve toutes ces populations.
Parce qu'il y a un langage méditerranéen commun. C'est le langage du blé, des céréales, le langage du raisin, du vin, le langage des théâtres antiques, c'est le langage de la mythologie méditerranéenne qui est la même.
Et des paysages, Nasser. Vous voyez, j'ai montré l'autre jour des photos de déplacements que j'ai fait volontairement, des photos qui auraient pu être prises partout sur la Méditerranée. Et j'ai pris une femme en Grèce, j'ai posé la question à des étudiants, mais cette photo a été prise où ? Certains m'ont dit dans les Calanques à Marseille, d'autres m'ont dit à Tanger, d'autres m'ont dit à Tel Aviv. Vous voyez, on a une envie, on a une culture méditerranéenne, toutes ces images-là, c'est ce qui m'anime dans ce rapport que j'entretiens avec cette région du monde.
Une beauté et une boue du monde, et en même temps un cœur du monde. Cette Méditerranée que Fernand Braudel disait que c'est la Méditerranée, ce sont des routes. Il n'y a pas de rive, il y a une seule rive et ça circule. Ce sont des routes en permanence. Ce sont voilà. Et, si vous aviez à définir les routes aujourd'hui de la Méditerranée, cette circulation, ça serait autour de quoi? Autour des nouveaux enjeux, autour de l'énergie, autour du gaz, autour du pétrole, ça serait quoi les nouvelles routes de la Méditerranée?
C'est une très belle question, Nasser. Je pense que le transport maritime, le développement du transport maritime, aujourd'hui est l'une de ces routes. Que je ne souhaite pas qu'elle soit monopolisée non plus par nos amis chinois. Je pense que la question de l'hydrogène aussi en Méditerranée qui doit se développer, donc la question de l'énergie, la question qui nous anime aussi, c'est ces routes culturelles. Ou à un moment donné, comment on met en avant cette culture méditerranéenne? Il y a des cultures germaniques, il y a des cultures d'autres pays. Comment aujourd'hui on construit cet ensemblier de ces cultures méditerranéennes? C'est un peu ce qui a été soulevé avec Karim Amelal lors du forum, qui était sous le haut patronage d'Emmanuel Macron, qui a une vision, et il a été invité sur votre plateau au moins deux fois, si je me rappelle bien, où il parlait de la Méditerranée. Et je crois que cette vision-là, on doit ensemble la porter. La Méditerranée ne peut plus être une zone de conflit. Ça doit être et je suis un peu utopique, mais c'est aussi ça la politique, ça doit être une zone de fraternité, de bonheur et d'amour.
Alors, il y a une journée de la Méditerranée maintenant chaque année, le 29 novembre, que tous les États vont célébrer. Et il y a aussi l'idée de faire une capitale tournante de la Méditerranée. Donc, ça, on pourra commencer par Marseille, ensuite Alger, ensuite Barcelone, ensuite, différentes. C'est cette idée de capitale tournante de la Méditerranée, c'est quelque chose qui a été porté par le livre blanc du plaidoyer pour la Méditerranée lors de ce forum, des 150 jeunes qui ont publier un livre blanc et un plaidoyer, c'est une idée qu'il faut encourager.
Bien sûr, comme j'ai eu récemment une conversation avec Olivier Poivre d'Arvor lors du One Ocean Summit avec le président Macron, et je crois qu'il y a un sujet qui est ce Parlement de la Méditerranée. Moi, je souhaite à un moment donné que pour porter les projets, pour trouver les financements, pour accompagner les initiatives des personnes qui veulent innover en Méditerranée, il faut amener de l'argent, il faut amener une volonté politique et construire ce Parlement de la Méditerranée, construire ces capitales tournantes de la Méditerranée sont des axes forts.
Ces Erasmus tous azimuts, c'est-à-dire cette libre circulation des étudiants, des associations, des artistes, des chefs d'entreprise, cette libre circulation de tous ceux qui créent et qui produisent en Méditerranée?
Mais c'est évident. Vous savez, pour combattre, le racisme, c'est en se reconnaissant et en se connaissant. Parce que, comme je le dis souvent, même si certains instrumentalisent les religions aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire, c'est que il y a une liberté nécessaire en Méditerranée et il y a des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs, quelle que soit leur nationalité, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest de la Méditerranée, qui souhaitent commercer entre les différentes rives. C'est l'histoire de la Méditerranée, il faut se rappeler ce qui s'est passé avec les Grecs, ce qui s'est passé avec les Phéniciens. Donc on se construit dans le commerce, dans un lieu d'échange. Et cette Méditerranée-là, doit être ce lieu d'échange.
D'ailleurs, Marseille elle-même, on l'appelle la cité phocéenne.
Exactement.
C'est une ville qui vient de loin.
C'est une très belle ville qui vient de loin. Et puis, puisque je l'ai appris tout à l'heure, je vais vous donner un scoop. J'ai cru comprendre que le premier meeting de campagne d'Emmanuel Macron aura lieu à Marseille le 6 mars.
Eh ben, on y revient dans un instant. Et surtout, on va revenir à votre engagement. Parce que si vous prenez une Méditerranée fraternelle et si vous avez un idéal, ça repose aussi sur des convictions et sur une pratique, un engagement de tous les jours en tant que citoyen. Et on y revient dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Méditerranéen de cœur et de combat, citoyen avisé et défendeur de l'écologie au centre, Christophe Madrol est notre grand témoin. Aujourd'hui, bien sûr, c'est le local, c'est être pragmatique et faire avancer la société. Mais bien sûr, les grands enjeux de la société française vous traversent comme ils traversent tout un chacun. Aujourd'hui, on voit depuis les années 80, On a eu les thèses de la préférence nationale imprimées par le Front National progressivement pénétrer, y compris les partis de gauche, les idéaux de gauche. La France s'est droitisée à tel point qu'aujourd'hui, parler des Arabes ou de la chasse des ratonnades ne prête pas à conséquence. On a des théories sur le grand remplacement. On a des choses complètement débiles et démoniaques, genre arrêter les allocations familiales, les regroupements familiaux, etc. Il y a un glissement sémantique, et même plus que ça, vers des thèses qui sont xénophobes, mais qui aussi touchent l'ensemble du territoire européen. Là-dessus, vous considérez que Emmanuel Macron peut être le meilleur rempart face à ces thèses ?
Oui, Emmanuel Macron, que je connais bien, est un homme solide. Il a été, son mandat a été un mandat compliqué parce que depuis maintenant 3 ans, il est en train de gérer la crise des Gilets jaunes, en plus la crise du Covid qui nous a tous particulièrement mis à plat pour ceux qui ont pu s'en sortir et mis sur les nerfs. Et je vois la crise aujourd'hui ukrainienne. Alors on lui reproche d'avoir communiqué un peu trop vite. Moi, ce que je vois, c'est qu'un capitaine, on le reconnaît, moi qui suis un méditerranéen et un marin, on reconnaît le capitaine dans la tempête. Et ce capitaine Emmanuel Macron, même si on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais lui-même, dans une fameuse émission sur TF1, s'est reproché ce que les Français pouvaient lui reprocher sur certains de ses comportements, donc il n'y a pas offense de lui dire ça. C'est un capitaine dans la, dans cette tempête dont on a besoin.
Il s'est bien débrouillé face à l'offensive d'Erdogan en Méditerranée sur les eaux grecques. Et finalement, Macron s'est bien débrouillé puisque Erdogan a fait marche arrière.
Bien sûr. Et puis, vous savez, Emmanuel Macron est venu aime Marseille. Donc, moi qui suis marseillais, je ne vais pas me dédire. Il a amené de l'argent à Marseille et pour les écoles, pour la sécurité, il a soutenu l'économie en France mais aussi sur le bassin méditerranéen et je préfère un président qui regarde notre Méditerranée avec plaisir qu'un président ou une présidente qui lui tourne le dos.
Et c'est vrai que il a commencé son discours en disant ici c'est Marseille. Donc il a quand il a développé son discours à Marseille pour soutenir cette capitale de la Méditerranée, parce que c'est vrai que la France est orientée vers le nord, elle est orientée vers l'Allemagne, elle est orientée vers les États-Unis, vers l'Atlantique, et souvent cette partie un peu du sud est laissée un peu de côté. Et alors que on a une envie de Marseille, on a une envie de sud. Et c'est vrai qu'il y a une impulsion qui s'est dégagée, mais ce que je voulais vous demander, c'est que sur le plan quand même des grands enjeux, on a quand même l'impression que les partis politiques de gauche comme de droite se sont laissés gangréner par un certain nombre de thèses qui, jusqu'à il y a 10, 15, 20 ans, ça serait tombé sous le coup de la justice. On ose proférer des mots, on ose avoir des actes qui aujourd'hui sont complètement anodins et passent comme une lettre à la poste. Mais il y a 20 ans, tout le monde aurait crié au scandale. Ce glissement, à quoi vous l'attribuez ? À la faiblesse des idéologies, au manque d'engagement des gens, au manque de réseaux dans les quartiers, à tous ces grandes organisations comme la Croix-Rouge, comme le Parti communiste qui à l'époque avait les démocrates chrétiens qui avaient tout ce maillage associatif. Qu'est-ce qui s'est passé ? De quoi la France est atteinte ?
C'est un peu tout ça à la fois, Nasser. C'est pour bien connaître les quartiers, il y a eu une gangrénisation d'islamisme radicaux, mais qui sont très minoritaires, qui font beaucoup de bruit, on en parle beaucoup.
Qui ont été encouragés par des élus locaux.
Qui ont été,
ils demandaient la paix sociale.
Bien sûr.
Ils donnaient
99,99% des musulmans ne sont pas des musulmans intégristes. Arrêtons ce fantasme permanent. Je les connais à Marseille. J'en parle souvent.
On le sait, sur la radio.
Bien sûr, mais c'est bien de le redire, Nasser. Parce qu'à un moment donné, avec ce discours ambiant, c'est des fois culpabilisant. Moi, j'ai des amis musulmans qui me disent, mais Christophe, pourquoi on nous dit ça? Pourquoi on nous dit ça? Moi, je leur dis, non, croire ou ne pas croire, c'est de la responsabilité individuelle. Et quand certains politiques instrumentalisent les religions de gauche comme de droite pour porter un anathème sur l'ensemble d'une population et faire de la globalisation, moi ça me gêne. Qu'il y ait des fanatiques ou des extrémistes dans toutes les religions, oui Nasser, il y a des gens, on les connaît. Mais c'est pas la question aujourd'hui, c'est qu'il faut pas que les politiques, et c'est de la responsabilité des politiques, des démocrates, des républicains, de ne pas rentrer dans ce jeu suicidaire.
Est-ce qu'il faudra une sanction vis-à-vis de ces élus qui adoptent ce genre de thèse? Est-ce que vous appelez, par exemple, à une sanction, bien sûr, par le scrutin, par le vote? Est-ce qu'il faudrait peut-être faire une espèce de grand front républicain au niveau national, une charte, par exemple, en disant tel et tel élu qui cède aux sirènes un petit peu extrémistes de tel ou tel parti ne devrait pas avoir l'aval des républicains, des démocrates, etc.
Je dis à chaque fois, j'ai témoigné à visage découvert dans un très beau documentaire d'Yves Azéroual sur l'islamo-gauchisme. Où avec un grand nombre d'élus, donc Caroline Fourest, il y avait Pupponi, etc. Et je conseille à tous nos auditeurs d'aller le chercher parce qu'il y a des vrais témoignages de ce que vous dites. Comment certains élus locaux, pour acheter la paix sociale et souvent leur réélection, ont financé des mosquées, des synagogues, des courants de l'Église chrétienne à des fins politiques. Et non pas à des fins religieuses. Et c'est le vrai problème aussi, il est là.
Pour avoir la paix sociale et pour engranger des voix.
Un électorat. Donc, vous voyez, et moi, j'entends ce terme, vous l'avez prononcé, de grand remplacement. Je vois pas où est le grand remplacement. Le grand remplacement de quoi? De qui? De quoi? La France a toujours été un pays d'ouverture.
70 millions d'habitants, on voit pas par qui vont être remplacés.
Oui, remplacés, je sais pas par qui. Bon, après, qu'il y ait des problèmes sociaux, oui. Que ça soit une question sociale, oui, Nasser, évidemment, dans les quartiers où il y a eu une ghettoisation de certaines populations, où certains musulmans ont été remplacés par des gitans, où ces quartiers étaient avant occupés par des Italiens, etc., etc. Bien sûr, il y a une réflexion à avoir sur l'urbanisme, sur l'aménagement du territoire, sur mais qu'on n'aborde pas la question de l'immigration comme un problème d'immigration. Vous voyez, je suis très ami avec un homme que j'aime beaucoup, qui est Nabil Mrad, l'ancien président du CLAM, du Comité de liaison pour la Méditerranée, qui me disait toujours, quand dans un débat, on me parle de problème d'immigration, je dis toujours, on peut se poser la question de l'immigration, mais où est le problème? Où est le problème? La France s'est construite avec ces milliers de migrants qui sont venus enrichir. Pour moi, l'autre est un enrichissement et ce n'est pas une autre chose qu'un enrichissement personnel de ma propre culture.
Alors, vous militez à travers l'écologie au centre pour des choses très fortes. Vous demandez par exemple que le Premier ministre doit être en dehors des clivages et être constamment un écologiste. Vous êtes pour un revenu universel avec une activité d'intérêt général et vous êtes pour une souveraineté alimentaire et énergétique et une écologie laïque républicaine. Vous considérez que, par exemple, Emmanuel Macron devrait faire sienne ces thèses-là?
Bah oui, avec mon ami Jean-Marc Governatori, on s'est rencontrés et aujourd'hui, on essaye de pousser cette écologie au centre avec un certain nombre de propositions. Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui que le futur Premier ministre, de manière horizontale, puisse intervenir sur tous les ministères sur les questions de l'écologie et de l'environnement et de la protection de l'environnement. Ça touche l'alimentation, l'agriculture, le transport, l'énergie, l'éducation. Vous voyez, c'est d'une manière horizontale, construire une pensée écologiste, environnementaliste, ça part dès la plus jeune enfance. Donc, Monsieur Blanquer devrait être aussi un écologiste reconnu. Ensuite, sur la question aujourd'hui de l'énergie, vous m'en parlez. Vous savez, je suis de ceux qui disent, Si on veut avoir une indépendance énergétique, et on le voit avec le conflit aujourd'hui qui va s'aggraver, quand vous voyez le baril de pétrole qui demain va être à 100 dollars, on a tout intérêt. Donc, j'étais pendant des années opposé au nucléaire. Aujourd'hui, en parlant avec les ingénieurs, avec la phase 4 des centrales nucléaires, on peut recycler le combustible. Donc oui, développons une indépendance énergétique, mais développons en même temps, le fameux en même temps, les énergies renouvelables, comme le solaire, etc. C'est ça la richesse. Être écologiste, ce n'est pas être dogmatique, c'est être pragmatique. Et j'aime bien cette phrase d'Emmanuel Macron, moi, que je partage beaucoup, cette politique en même temps. Je ne suis pas contre la chasse. Par contre, on peut imaginer que les chasseurs, deux week-ends par mois, ne chassent pas pour laisser nos campagnes ouvertes aux randonneurs. Vous voyez, c'est le en même temps. Construire une société, ce n'est pas opposer les uns vis-à-vis des autres, c'est trouver la possibilité de vivre ensemble, du fameux vivre ensemble. Tout à l'heure, vous citiez Braudel, mais Ernest Renan parlait de ce projet, une république, une nation, c'est l'art de vivre ensemble. Moi, je suis de ce... Et je suis pas naïf quand je dis ça. Je connais les problèmes dans les quartiers. Je connais les problèmes à Marseille. Je ne suis naïf de rien. Simplement que c'est de ma responsabilité d'homme politique de prôner une société apaisée et non pas une société du conflit.
Donc, là, l'élection présidentielle va commencer. Emmanuel Macron est haut dans les sondages. Vous considérez que c'est joué d'avance. Vous considérez que les choses vont être compliquées, que ça va se jouer à quelques pourcents d'écart. Les écologistes au centre, comment ils se déterminent dans cette campagne électorale en soutien à Emmanuel Macron?
Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Non, une campagne électorale n'est jamais jouée d'avance. Il peut arriver, dans les jours jusqu'à l'élection présidentielle, d'avoir des conflits graves qui déstabilisent le vote des Français. Donc, rien n'est joué et je souhaite qu'Emmanuel Macron soit candidat pour pouvoir porter une parole forte sur les thématiques qui m'animent.
En second tour, il distance tout le monde, que ce soit Zemmour,
oui, mais vous savez, rien n'est fait. Rien n'est jamais fait. On fêtera la victoire d'Emmanuel Macron le soir du deuxième tour à 20h01. Avant, on est concentré, on est en campagne et on décide nos concitoyens à voter pour le bon candidat. Parce que là, c'est quand même compliqué. Si vous faites la totalisation des voix de Madame Le Pen et de Monsieur Zemmour, on dépasse les 30%. Est-ce que on a vu dans notre république, dans des élections, l'extrême droite ou la droite extrême passer les 30%? Jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Soyons vigilants.
Rassembler.
Ne nous trompons pas de colère. Si nos auditeurs nous écoutent, ne nous trompons pas de colère. La France est un beau pays. Alors, je reprendrai pas toute l'histoire, mais la France est un beau pays, la République est un beau concept. À nous de le faire vivre dignement dans cette société apaisée. Je suis naïf en rien.
Ça veut dire rassembler pour le premier et le second tour, mais surtout construire pour les législatives quelque chose dans lequel vous seriez représenté dans ce que vous appelez la démocratie participative. J'espère qu'on vous retrouvera
avec les citoyens. Je pense que, et là, je finirai là-dessus, je pense que l'élection présidentielle est une élection. Ensuite, l'élection législative, c'est la vie de la République par l'Assemblée nationale. Et plus il y aura d'élus écologistes au centre qui seront élus, mieux notre terre se portera.
Et on vous souhaite de tout cœur que vous en faisiez partie, que vous reveniez ici comme député de la nation écologiste. Merci d'être venu, Christophe Madrol. Bon courage pour la campagne et à
très
bientôt.
Merci à vous.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli BeurreFM. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur BeurreFM.
Christophe Madrol, toujours engagé pour la Méditerranée, pour la citoyenneté, pour l'écologie. Et votre engagement ne doit rien au hasard. Vous êtes dans les quartiers nord, vous êtes un éducateur spécialisé, vous êtes engagé pour la justice sociale, pour l'égalité. Cet engagement, il vient d'où? C'est ce désir de justice, ce désir de lutter contre les inégalités, pour la justice sociale, il vous vient d'où?
Mon père était éducateur spécialisé, très militant, droit de l'hommiste. C'était la suite de mai 68, dans les années 72. Et chez moi, ma mère était l'une des créatrices du mouvement de libération de la femme, le fameux MLF, souvent critiqué et brocardé. Mais et mon père était souvent en réunion et était un combattant pour la justice sociale. Il a fini sa carrière professionnelle comme directeur de l'association régionale du relogement en Île-de-France. Vous savez, ces fameux Maliens du quai de la gare qui avaient à un moment donné défrayé la chronique. Et j'ai été bercé entre un milieu un peu intellectuel, de prof, de gauche, ouvert sur l'autre, réfléchissant sur la question, rappelez-vous du débat sur le droit du sol, le droit du sang, et ça m'a baigné. Et c'est vrai que j'ai souhaité faire cette formation d'éducateur spécialisé parce que je hais la justice, je hais les injustices, je suis profondément quelqu'un qui met en avant le côté social, l'équilibre dans la société. Je souhaite une société apaisée. Je hais la violence, quelles que soient ses formes. Je hais, en ce moment, la violence politique m'agace au plus haut point, Nasser, quand je vois certains qui utilisent un vocabulaire ultra violent vis-à-vis des autres. Je souhaite une société apaisée. Je suis l'héritier, comme beaucoup d'entre nous, du siècle des Lumières, de la réflexion, de la pensée. Et je me suis engagé aussi en politique en tant qu'écologiste, mais avec ce côté protection de l'environnement, mais également équilibre social.
Donc un humaniste au service du bien social dans lequel le régalien a toute sa place. Et très tôt, avant l'heure, peut-être avant beaucoup de gens, vous refusez l'embrigadement, l'encartement. Vous n'êtes pas un homme de parti, un homme d'encartement. Vous débordez les partis et votre engagement est transversal, est horizontal. Et c'est ce qui vous a amené à l'écologie qui, pour vous, doit traverser tous les partis et doit faire partie du quotidien des gens.
Exactement, j'ai jamais, même si je suis un homme de parti, parce que j'ai été pendant des années responsable du Parti des Verts, que j'ai quitté quand il y a eu ce virage très gauchiste, mais je suis un écologiste libre. Je pense aujourd'hui que la société n'a pas besoin d'être, on n'est pas dans des carcans, je suis pas un dogmatique. Je suis un pragmatique, si vous voulez, c'est que je vois, j'accompagne de nombreuses associations, que ça soit en France ou sur le bassin méditerranéen, et je vois que les questions qui me posent n'ont rien à voir avec d'avoir une carte de gauche ou de droite dans la poche. C'est pour ça que je suis de ceux qui prônent que l'écologie doit être horizontale, cette fameuse écologie centrale de tous les programmes politiques.
Et vous dites souvent... Votre idéal, c'est de rendre la planète respirable et lever toutes les contraintes environnementales. Ça veut dire quoi ?
À un moment donné, il y a quand on veut monter des projets environnementaux, que ça soit de mettre une éolienne dans son terrain, que ça soit de pouvoir se nourrir différemment ou de mettre de l'huile de colza dans sa voiture ou innover au niveau environnemental, il y a des dizaines et dizaines de sociétés, de petites sociétés aujourd'hui qui veulent innover sur le transport maritime à la voile par exemple ou sur le traitement des déchets ménagers, et ils se confrontent à des normes, de l'administration française que je connais bien, j'en fais partie. Mais à un moment donné, je crois que ces normes, il faut à un moment donné les alléger. Et une chose m'a plu en 2017 dans le programme d'Emmanuel Macron, et il n'est pas allé jusqu'au bout de ça, c'est de lever ces normes. À un moment donné, le poids de l'administration française, même si c'est nécessaire dans certains secteurs, dans le secteur de l'innovation, on a besoin à un moment donné de faire sauter ce poids pour pouvoir innover de manière beaucoup plus forte. Je parle souvent avec des entrepreneurs qui me disent que ils passent la moitié de leur temps non pas à chercher des marchés, non pas à développer leurs produits, mais à répondre à ces normes administratives. Et on le voit partout. On a eu cette crise du Covid dans le secteur hospitalier. Les médecins que vous connaissez bien, Nasser, me disaient qu'ils prenaient la moitié de leur temps à répondre à des normes administratives au lieu d'être sur le terrain auprès des malades. Idem pour les enseignants, idem, vous avez vu ce film Bac Nord qui a été tourné à Marseille, et c'était révélateur de nos services. Il y a des policiers aujourd'hui sur le terrain qui veulent faire bien leur boulot, simplement qui sont d'une politique du chiffre, encore en référence au niveau de l'administration. Je suis pour des normes, parce que les normes c'est aussi l'égalité entre tous, mais trop de normes tuent la norme.
Et justement, quand on parlait d'innovation pour que le synonyme pour vous, c'est la création, et vous considérez, vous êtes éloigné un peu des orientations d'Europe Écologie Les Verts pour, que vous considérez comme des considérations étouffantes, pleines de contraintes, et que qui donnent des leçons de morale. Et vous prônez plutôt une écologie qui fait tomber les murs, qui libère et qui débouche finalement vers un quotidien optimiste, joyeux. Donc c'est une vraie fracture. Vous pensez que
c'est une vraie fracture. Je dis souvent qu'individuellement j'adore les écologistes, mais dès qu'ils se rassemblent, ils sont capables du meilleur comme du pire. Et aujourd'hui, quand je vois certains propos, par exemple de Madame Rousseau qui veut déconstruire la société, moi je veux construire la société dans le bonheur. On fait pas d'écologie contre la volonté des gens. Vous savez, quand je vois les écologistes qui veulent nous interdire le Tour de France ou qui veulent nous interdire les sapins de Noël, ou qui... je suis pas pour une société de l'interdiction. Je veux à un moment donné accompagner nos concitoyens qui ont eu, comme nous, à lire le rapport du GIEC sur ce qui se passe dans le monde avec le réchauffement climatique. Tout le monde est conscient, pour l'avenir de nos enfants, qu'il faut faire gaffe. Mais je veux, à un moment donné, faut les amener à prendre conscience qu'eux, mais pas en mettant des interdictions et pas en mettant des normes telles que le veut le faire Europe Écologie Les Verts.
Oui, c'est-à-dire que vous êtes pour le consensus sur la base du respect de certains principes et surtout de certaines choses qui devraient, dès l'enfance, être faire partie du quotidien de l'éducation, du sport, de la musique. Donc vous êtes pour le consensus.
Oui, je suis pour une écologie populaire, pas pour une écologie boboïsante. Parce que vous voyez, si on parle de décroissance, certains de nos amis qui sont dans les cités, qui n'ont rien à manger ou qui n'ont pas d'argent à mettre dans leur voiture ou de l'autre côté de la Méditerranée, qui n'ont même pas de toit pour se protéger. Vous voyez, cette écologie punitive, cette écologie décroissante, c'est pas mon écologie. Moi, je suis pour une écologie du bonheur, pour une écologie qui donne envie de pouvoir trier ses déchets, manger mieux, construire des solidarités nouvelles, combattre le racisme. Vous voyez, c'est tous ces sujets-là qui m'animent. C'est, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est l'équilibre entre la protection de l'environnement et une protection sociale pour tous.
Et celle-là, vous la déconnectez pas de la démocratie. Aujourd'hui, la démocratie, elle est mouvante. C'est la démocratie, c'est un équilibre permanent qu'il faut entretenir en permanence, qu'il faut lutter en permanence pour la démocratie. Mais cette écologie, vous ne la déconnectez pas d'une certaine citoyenneté. Citoyenneté, démocratie, écologie.
Ah, mais
c'est un
lié.
Petit peu votre trilogie.
Et je dirais un autre mot, c'est république. La démocratie comme la république, c'est un combat permanent qui m'anime tous les jours. La séparation des pouvoirs dans notre République est fondamentale. Donner des moyens à la justice, comme à la police, comme à l'éducation nationale ou au secteur hospitalier, c'est de la responsabilité des politiques. C'est ça la démocratie pour moi. C'est à un moment donné comment on forme les citoyens à prendre conscience de l'urgence environnementale, sociale, etc., etc. C'est ça pour moi la démocratie. Et quand je vois par exemple certains candidats à la présidentielle qui courent après leur parrainage et qui sont pourtant des gens qui ont des choses à dire, vous savez, je reprends toujours la femme de Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je mourrai pour que vous puissiez le dire. Et ça, c'est vraiment mon credo. J'exècre les propos d'Éric Zemmour, j'exècre les propos de Marine Le Pen, j'exècre les propos de Jean-Luc Mélenchon, mais simplement que dans la démocratie, je suis pour le débat permanent. C'est comme ça, c'est la richesse de notre République.
Alors, on sort de l'accord de Paris, qui évolue à force de COP. Hein. On sort aussi de la Convention citoyenne. Oui. Il y a eu une polémique entre la Convention citoyenne et le président Macron. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour un éventuel mandat futur reprendre de cette Convention citoyenne et quel est l'élément ou les deux éléments sur lesquels il faudrait insister pour que on ait vraiment pour que l'écologie imprenne la société française. Parce qu'on a vu que le président Macron avait décidé de nucléariser un peu plus le pays. Pour vous, quel serait l'élément central à construire autour de l'écologie pour le prochain mandat?
Je vais vous étonner, Nasser. C'est revoir le mode de scrutin. L'une des promesses d'Emmanuel Macron, c'était la proportionnelle. C'était François Bayrou, d'ailleurs, qui lui avait susurré à l'oreille. Si on veut pour que les écologistes aient une vraie parole, ils doivent être présents à l'Assemblée nationale. Et on ne peut pas faire élire des élus écologistes avec des accords avec les socialistes ou avec LR ou avec d'autres. Les écologistes, pour porter une vraie parole écologiste, doivent être libres à l'Assemblée nationale. C'est là où se font les lois. C'est là où on met la pression sur le gouvernement. Et donc, c'est en révisant, en revoyant le mode du scrutin. Pour les élections législatives, arriver à une vraie proportionnelle, et pour les élections européennes, qui est un vrai sujet, baisser le taux de répartition des sièges, non plus à 3 ou 5%, mais à 1%. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois, on ne fait pas de politique écologiste sans écologiste.
Mais est-ce qu'on ne risque pas une balkanisation de la démocratie?
Non, parce que vous savez, il y a des accords, on est des gens responsables, il y a des sujets sur lesquels je peux être d'accord, par exemple, aujourd'hui avec des républicains sur des thématiques, ou avec des marcheurs, ou avec des socialistes. J'ai eu à travailler longtemps avec Monsieur Fabius et Madame Royal, sous la houlette de Monsieur Hollande, on partageait pas tout, mais au moins... on était d'accord, vous parliez tout à l'heure de la COP 21 de Paris, les accords de Paris, j'étais très présent sur la COP 22 à Marrakech et j'avais préparé une partie de la COP 21 avec Monsieur Fabius et Madame Royal. On n'était pas d'accord sur tout, mais on a trouvé à un moment donné les points qui nous rassemblaient. Notre société a besoin de trouver des points qui rassemblent et non pas qui divisent. Et on a toujours tendance, surtout dans le monde écologiste, à trouver des points qui nous divisent, qui nous fracturent, et non pas qui nous rassemblent. C'est ça aussi que je reproche à Europe Écologie Les Verts. Au lieu de dire, sur tel point, tel point, tel point, Emmanuel Macron a eu raison, Yannick Jadot dit, tout ce qu'a fait Emmanuel Macron en matière d'écologie est à jeter. Ça, je refuse ce discours-là.
Donc, une démocratie participative dans laquelle un rassemblement pourrait être possible en faveur des écologistes.
Avec les citoyens.
Avec les citoyens, on se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant.